Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 3 octobre. Bonjour Amandine.
Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est un témoignage d'abord ce matin, celui d'Anne-Laure, directrice d'école dans l'Isère. Elle se dit bouleversée par le suicide il y a 10 jours de l'une de ses collègues à Pontin, en Seine-Saint-Denis.
On est vraiment, vraiment submergé de travail. Depuis le début de l'année, je fais 60 heures par semaine. Donc oui, je comprends. Et je suis très triste, vous voyez, c'est très dur. Elle est arrivée au bout parce que c'était trop. Et ce trop, il y a beaucoup de directeurs qui le vivent. C'est une mission où on est seul. On n'a plus d'aide dans les écoles. On nous a enlevé toute l'aide administrative. On doit tout faire, tout nous-mêmes. C'est juste pas possible. Donc oui, moi j'ai craqué. Il y a des gens qui arrivent au bout. Il y en a qui se suicident. Sachez que ça ne sera pas vain, j'espère que son geste et qu'on nous entendra enfin, pour juste plus que ça se passe et que tout le monde puisse faire son travail correctement pour qu'on ait une éducation correcte pour nos enfants.
Un témoignage recueilli pour RTL par Serge Payot, alors que les obsèques de Christine Renon auront lieu aujourd'hui en signe de soutien. Des rassemblements, comme on l'a entendu dans l'Isère, étaient organisés hier. Ce sera le cas encore aujourd'hui, un peu partout en France, en signe de soutien et de protestation aussi. La moitié des écoles de Seine-Saint-Denis devraient être fermées aujourd'hui.
Quelle solution apporter face à la détresse de ces directeurs d'école? Les premières réponses du ministre de l'Éducation nationale ce matin sur RTL. Jean-Michel Blanquer est l'invité d'Alba Ventura. Il sera 7h45.
RTL Matin, 7h32.
À Rouen, une semaine après l'incendie de l'usine Lubrizol, une forte odeur d'hydrocarbures persiste toujours par endroits. Pas de quoi rassurer la population qui reste inquiète. Hier et pour la première fois, le directeur général de l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, a évoqué une possible pollution à la dioxine.
Les résultats que nous avons aujourd'hui ne nous permettent pas d'écarter qu'il y ait eu de la pollution à la dioxine, a priori assez faible, puisque nous sommes dans des écarts faible. Et donc, il convient de poursuivre les investigations et regarder via des prélèvements plus approfondis ce qu'il en est, notamment dans les aliments.
Raymond Cointe, le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Il était au micro RTL de Julien Caillard.
Les radars ne rapportent plus.
Plus autant, en tout cas, que par le passé. 500 à 600 millions d'euros quand même cette année. Mais c'est presque deux fois moins que ce sur quoi tablait le gouvernement en cause. Les récentes dégradations et notamment le mouvement des Gilets jaunes. Pour l'association 40 millions d'automobilistes, il est temps de passer à autre chose.
Ça permet à l'État de comprendre qu'aujourd'hui, le radar est en fin de vie un petit peu, et qu'il va falloir trouver d'autres méthodes pour faire de la sécurité routière, tant mieux. Alors aujourd'hui, les Français n'acceptent plus l'outil radar. La France a trop tiré sur la corde sur la radarothérapie. On a voulu faire plus haut, plus loin, plus fort que tous nos voisins européens. Au final, nous sommes le 15e pays européen de la sécurité routière. C'est mauvais. Et on est loin derrière des pays qui sont en train soit de retirer les radars, soit comme au Danemark, qui n'en ont pas.
Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes avec Romain Houck pour RTL. Bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour.
La fin des radars en France, c'est possible?
Alors pour l'État, non, pas question. D'abord, si les recettes sont en baisse, elles devraient repartir à la hausse dès l'an prochain. Prévision 728 millions d'euros. Car l'objectif est clair, remettre le plus vite possible le parc en état, d'autant qu'en raison des dégradations, le nombre de photos exploitables après un flash est en chute libre de 17%. Ensuite, s'il est vrai que le gouvernement lève le pied sur l'implantation de radars, 300 de moins que prévu fin 2020. En réalité, il en profite pour moderniser les appareils. C'est le cas avec les fameuses cabines tourelles. 440 devraient être en service fin décembre. Enfin, selon la sécurité routière, malgré toutes les critiques, les radars ont un impact sur le comportement. Pour preuve, une légère baisse de la vitesse moyenne, 2 km/h en moins sur les routes limitées à 80 et moins 3 km/h en ville.
Merci beaucoup Christophe. Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL. Toujours à propos de transport, la première intervention publique du futur patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, était auditionné hier à l'Assemblée et au Sénat. Et il l'assure, il va faire de la ponctualité des trains sa priorité.
Moi, quand j'étais jeune cheminot, quand je donnais le départ des trains, je courais pour partir à l'heure. Et si jamais mon train ne partait pas à l'heure, je me faisais engueuler. On rigolait pas avec ça. Moi, j'en ai marre qu'on nous dise les Japonais sont meilleurs que nous. J'en ai marre qu'on nous dise les Suisses sont meilleurs que nous. Moi, je veux mettre la SNCF au niveau de ces gens-là. Et c'est possible. Ça, là-dessus, je ne lâcherai pas. Et c'est là-dessus qu'on va avancer.
Donc voilà, il a bien pêché un nouveau patron de la SNCF.
Propos recueillis pour RTL par Éric Vanier, Jean-Pierre Farandou, qui remplacera officiellement Guillaume Pépi à la tête de la SNCF à la fin du mois. Par ailleurs, appelé au dialogue sur la réforme des retraites, bloquer la SNCF par la grève, dit-il, ne servirait à rien. Et la question des retraites, qui sera, on le rappelle, au cœur des discussions aujourd'hui à Rodez. Emmanuel Macron se rend sur place. Le débat qui avait été annulé la semaine dernière en raison du décès de Jacques Chirac est donc reporté à aujourd'hui.
RTL Matin, 7h35.
C'est le médicament le plus vendu en France, le paracétamol pourrait bientôt ne plus être en libre service dans les pharmacies.
Oui, c'est en tout cas ce que recommande l'agence du médicament. Elle souhaite ainsi limiter les risques.
Quand on voit des médicaments qui sont accessibles directement à côté, par exemple, des biberons, ça banalise en fait le médicament et ça peut faire oublier qu'on est face à un médicament qui peut avoir des risques. Le second point, le fait d'aller demander un médicament à un pharmacien, ça permet de privilégier le dialogue et de faire en sorte que le pharmacien puisse donner ses conseils.
Le docteur Philippe Vella, directeur des médicaments antalgiques à l'ANSM, avec Odile Pouget pour RTL et puis à Doha. Enfin, les premières médailles françaises aux mondiaux d'athlétisme. Pascal Martineau-Lagarde décroche le bronze aux 110 mètres haies. Quentin Bigot, l'argent au marteau.
Je suis content de ramener ça pour ma discipline. J'espère que ma discipline sera un peu plus mise en avant avec ça. On arrêtera de nous mettre sur des stades annexes, sur des compétitions. Qu'on arrête de nous mettre en fin de programme ou en début de programme. Le marteau, ça marche en France. On a plein de clubs, on a des jeunes qui pratiquent. C'est ma passion, le marteau. Je veux dire, c'est toute ma vie. C'est ouf pour moi d'être dans l'histoire du marteau.
C'est ouf d'être dans l'histoire du marteau, dit Quentin Bigot. Bravo à lui. En tout cas, il était au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Aujourd'hui, on suivra de près Kevin Mayer, l'un des favoris du décathlon. Il est pour l'instant troisième à l'issue des cinq premières épreuves. Et puis en foot, soirée en demi-teinte pour les clubs français en Ligue des Champions, puisque Lyon s'est imposé 2-0 face à Leipzig et met fin ainsi à une série de 7 matchs sans succès, toutes compétitions confondues. Lille, en revanche, a été battue par Chelsea, défaite 2-1.
C'était l'excellent toute info avec Amandine Bégaud. Nous aurons le plaisir de nous retrouver à 8h40.